des questions, je crois qu'il y a des hôtesses qui vont vous passer les micros. Voilà, si vous voulez bien vous désigner.
Oui, bonjour. Olivier Boubaolga de l'Université de Poitiers. J'ai trouvé les exposés très intéressants. J'avais quelques petites questions ou remarques. Peut-être à Thierry Madiès sur cet argument qu'on retrouve beaucoup chez les universitaires consistant à dire que pour innover, il faut collaborer localement parce que ça permet d'échanger des connaissances tacites, etc. Les arguments de preuve qu'on avance très souvent, c'est basé sur des données de coprésence entre acteurs, en fait. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'études aussi plus qualitatives ou qui reviennent de la sociologie de l'innovation, etc., qui montrent qu'en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Quand on essaie de creuser et voir quels sont les acteurs qui entrent en relation, ce n'est pas toujours, pour l'essentiel, localement. Et quand ça l'est, ce n'est pas nécessairement pour échanger ses connaissances tacites avec ses interactions de face à face. Donc j'aimerais savoir si peut-être vous pourriez préciser un peu ça. La deuxième idée, alors plus générale, sur la politique des pôles de compétitivité, moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend. Alors venant en plus de Poitou-Charentes, c'est... ça rejoint un peu la même idée, quoi, cette obsession du local et des collaborations locales. Sur certains territoires, vous l'avez dit en Rhône-Alpes, ça semble très pertinent. On a déjà un potentiel scientifique et économique très fort. Les gens collaboraient déjà localement ensemble. Et finalement, on donne un peu plus d'argent à ce qui marchait bien et ça va peut-être renforcer, accélérer la dynamique. Très bien. Sur d'autres territoires, typiquement, je prends l'exemple de la région Poitou-Charentes que je connais bien, mais je crois que ce n'est pas du tout la seule dans ce cas-là. On sait très bien que c'est une région qui a un vrai potentiel scientifique, avec des chercheurs qui sont très performants, qui tissent des collaborations très intéressantes avec tout un ensemble d'entreprises, avec d'autres laboratoires, etc. En revanche, c'est une petite région économique, donc il est clair que les labos de Poitou-Charentes collaborent pour l'essentiel en non local. Pour avoir fait des statistiques dessus, c'est 11% de collaboration science-industrie en Poitou-Charentes, 90% avec des entreprises d'autres territoires. Typiquement, pour prendre un tout petit exemple pour que ça parle bien, on a eu l'ANSMA, École nationale supérieure de mécanique aéronautique, très grosse école sur Poitou-Charentes, qui a beaucoup de collaboration avec, forcément, la région Midi-Pyrénées, parce que spécialisée en aéronautique. Or, politique des pôles de compétitivité, ah ben non, faut pas. En tout cas, au départ, c'était un peu ça. Y a quand même, derrière la politique des pôles de compétitivité, qui est très coercitive, hein, d'une certaine manière, il y a un zonage R&D. Il faut être dans le zonage R&D pour bénéficier de subventions. Si on n'est pas dans le zonage, on n'a pas la subvention. Donc, voilà, ce petit exemple, enfin, qui me semble assez emblématique. Donc, l'ANSMA ne peut pas bénéficier de subventions pour collaborer avec des entreprises de Toulouse. Est-ce que c'est pas... Alors, c'est là où on peut s'interroger, ce que disait un peu Thierry Meyer à la fin, sur est-ce que c'est vraiment l'État qui est le mieux placé pour imposer un modèle qui se fait un peu un modèle générique qu'on va répartir un peu partout sur les territoires. Est-ce que c'est l'État le mieux placé pour faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas vocation quand même aussi à laisser faire les territoires en fonction de leurs caractéristiques structurelles particulières pour essayer de faire émerger des modèles qui forcément seront différenciés parce que nos territoires et nos régions sont très très différenciés. Merci.
Oui, peut-être que je vais répondre sur la première question. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que quand on montre dans les études économétriques que font les économistes que la distance géographique, finalement, compte, hein, et que les externalités de connaissances sont polarisées, cette distance, c'est un peu une black box, c'est une boîte noire qu'il faut ouvrir. Et effectivement, vous avez des travaux, hein, qui sont complémentaires de ceux réalisés en termes de distance géographique qui mettent l'accent sur la notion de distance relationnelle et des réseaux sociaux. Et on s'aperçoit finalement que vous avez un double mouvement, c'est-à-dire qu'il existe des effets frontières importants que je maintiens sur les réseaux, sur les externalités de connaissances entre acteurs, mais il semble qu'au-delà d'une certaine distance, la diffusion de la connaissance se fasse aussi avec des coûts effectivement qui sont décroissants. Donc il y a un double mouvement qui est celui de polarisation, la proximité géographique compte, mais où vous avez raison, c'est qu'il y a aussi ce mouvement au-delà d'une certaine distance qui fait que les réseaux sociaux d'acteurs vont se substituer à la dictature de la distance. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné des statistiques qui reposaient sur les départements, parce qu'on a nos données les plus fines se situent au niveau des départements, mais les agglomérations sont effectivement le lieu privilégié de ce double phénomène, à la fois de polarisation et aussi de diffusion de la connaissance. Donc je suis d'accord que derrière la distance géographique, on capte aussi des effets sociaux. Quand je dis sociaux, c'est des réseaux d'acteurs. Hein, donc je pense que c'est ces deux mouvements, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des travaux qui ont été réalisés, notamment sur les programmes européens, pour essayer de voir un petit peu si c'était la distance géographique qui comptait, ou plutôt les réseaux européens, quand je dis sociaux, c'est-à-dire réseaux d'acteurs, de chercheurs et autres. Donc c'est cette double polarisation, je suis d'accord avec vous. Sur les pôles de compétitivité, j'aurais à dire aussi, mais peut-être que je peux laisser à des gens plus compétents que moi. Sur le zonage, je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment.
Juste une remarque rapide sur le zonage. Il ne faut quand même pas oublier comment est-ce que la politique des pôles de compétitivité a été acceptée par l'Union européenne. Hein, si on commence à dézoner les politiques de compétitivité, ça commence à ressembler à quelque chose que la politique de la concurrence n'aime pas trop. Ça a commencé à ressembler à une politique industrielle, entre guillemets, classique, qui revient en fait à subventionner des secteurs. Enfin, la recherche en développement au niveau sectoriel. Donc, si on enlève la dimension spatiale de ça, on voit bien là où on va du côté de Bruxelles. Et c'était important hein, dans la négociation avec la Commission au moment où cette politique a été acceptée. C'était sa dimension spatiale. C'est pas seulement parce qu'on pense que les effets de cloisonnement sont importants. C'est aussi parce que c'est un des modes d'acceptation au niveau, disons, communautaire de la politique industrielle. C'est la dimension spatiale. Donc, évidemment, des fois, ça conduit à des absurdités un petit peu. Mais il y a cet aspect économie politique qui est pas neutre.
Je voulais dire un mot sur ce zonage pour aller tout à fait dans votre sens, puisque nous, lorsque le zonage est arrivé initialement, il a été beaucoup discuté avant même qu'il soit calé et arrêté en région Rhône-Alpes. C'est-à-dire que, notamment dans le souvenir du textile, où effectivement on savait bien qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas forcément connexes par rapport à un zonage, mais qui se retrouvaient en Drôme ou en Ardèche, etc., et qui participaient de fait, effectivement, à une dynamique globale, une synergie globale, et qui ne pourrait pas bénéficier sous l'onde fiscale du zonage, et qu'il y a quand même un problème. Donc, effectivement, il y a l'Europe, mais comment définit-on le zonage ? Donc, un zonage, il en faut un. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on le construit a priori, ou est-ce qu'on laisse aussi les acteurs de terrain, par leur adhésion au pôle, finalement, voilà, et puis ensuite, on régularise. Hein, c'est tout un problème de...
très important. Je peux rajouter si c'est possible. Effectivement, je crois que c'est le territoire pertinent, il sera jugé ex post en réalité. C'est-à-dire grâce à ce que Sandra et Thierry, ce dont Thierry et Sandra parlaient, c'est-à-dire que ce sont, à mon avis, les évaluations ex post, notamment par exemple celles qui permettront d'évaluer s'il y a une densification, hein, par exemple des relations. Hein. Il y a des travaux aussi qui sont menés sur cette question, qu'on pourra définir ex post quel est le territoire pertinent. Et peut-être qu'il s'avérera que le zonage ne correspond pas exactement à ce schéma. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Oui, j'ai une question qui s'adresse à M. Meyer. J'ai été un petit peu surprise que vous compariez les systèmes productifs locaux et les pôles de compétitivité, parce qu'il semble, enfin, d'après l'origine, que ça procède de deux logiques très différentes. Les systèmes productifs locaux, c'est un peu le district à l'italienne, ou voire les systèmes un peu des clusters comme porteurs, qui ont pour intérêt, enfin c'est ce qui semble, de faire collaborer les gens dans toute la chaîne de valeur, les entreprises, les sous-traitants, les fournisseurs, et qui sont peut-être dans une logique plutôt solidaire et de souder les liens entre toutes... ces systèmes productifs locaux, justement, et les systèmes de compétitivité qui sont vraiment pour la compétitivité et qui sont des groupes projets, finalement. Donc, dans les conclusions que vous donnez, ça, enfin, on a l'impression que c'est un peu le grand écart, parce que les objectifs... Enfin, M. Jacquot l'a un peu expliqué en montrant les différents pôles de compétitivité, les mondiaux, les nationaux, les locaux. Donc, dans les conclusions, je trouve que c'est... Faire le raccourci entre les deux, c'était très curieux. Donc, je voulais savoir... Pourquoi vous aviez fait cette comparaison ?
Comme j'avais dit au départ, donc, parce que notre objectif initial, enfin l'objectif initial que le financeur avait en tête était irréalisable, donc on ne pouvait pas évaluer les pôles de compétitivité, mais les SPL ne sont pas totalement déconnectés. C'est-à-dire que les SPL, il y en a un quart qui sont devenus des pôles. Ça vous dit bien quand même que ça part de la même logique. Donc il y a une logique de cluster. Et la logique de cluster, elle vous dit dans les deux cas, enfin il y avait le présupposé dans les deux cas que collaborer, ça donne des gains, et que, deuxième supposé, il y a besoin d'une subvention pour pousser la collaboration. La collaboration n'est pas assez importante, sinon il n'y aurait pas besoin de subvention, on est d'accord. Il y a des projets, et ces projets, pour justifier la subvention, c'est qu'il y a, soit il n'y en a pas assez, soit la collaboration est difficile, et donc il y a une subvention publique qui est là. Et dans les deux cas, c'est ça. Alors, dans le cas des SPL, c'est une micro-subvention. Je crois que la subvention à l'origine, c'est 36 000 euros. Mais ça ne change pas la logique. La logique même du chose, c'est quand vous regardez, en gros, l'appel d'offres initial des SPL, ça ressemble beaucoup, et il y a du copier-coller avec les pôles de compétitivité, je vous assure. On a regardé le texte, il y a de temps en temps... Et dans l'opuscule et dans mon oral, j'ai dit, ça n'est pas une évaluation des pôles. Il y a une différence d'ampleur. Il y a, en gros, la même idée derrière, mais il y a complètement une différence de taille dans les faits. Et ça appelle d'autant plus à évaluer les pôles en tant que tels.
Bonjour, Hugues Deveau. Est-ce que vous avez des données sur dans les subventions obtenues, la part qui revient aux grandes entreprises par rapport aux PME? Et avec moi, le sentiment que par rapport à l'Allemagne, si on se compare à l'Allemagne, les petites entreprises reçoivent, et notamment les PME, reçoivent beaucoup plus de subventions que les grandes par rapport en France. Je voudrais votre avis là-dessus.
Monsieur Jacot, vous répondez?
C'est effectivement l'un des points constamment que nous demandons dans les suivis avec l'État. C'est vrai qu'en Allemagne, ce qu'on appelle le Mittelstand est absolument décisif, et on sait bien qu'en France, le problème absolument crucial, c'est le passage précisément à ces entreprises moyennes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de PME, mais plutôt les P que des M, E, et après on a des grands groupes, et on a un mal de fou à passer à ces entreprises intermédiaires. Et je voudrais dire à cet égard que... Alors, je ne vous répondrai pas financièrement, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une très, très bonne question qui, dans le cadre de l'évaluation, doit absolument être suivie, et nous demandons à la région qu'elle soit suivie. C'est, je dirais, ce qu'on peut appeler l'écosystème de l'innovation, l'écosystème régional de l'innovation. On parle des pôles. La région Rhône-Alpes, pour sa part, parallèlement, a mis en place l'agence régionale de développement et de l'innovation, ARDI, qui précisément cible aussi les PMI et essaye de les rapprocher de cette dynamique de pôle de compétitivité, avec une typologie des PME, tout à l'heure on parlait du nombre, hein, en gros en Rhône-Alpes on a à peu près 200 groupes pour lesquels les questions de recherche et d'innovation au fond ne posent pas de problème, et c'est leur lot quotidien, elles l'exercent plus ou moins bien, mais forcément c'est dans leur dynamique. Après, on a identifié 300 entreprises qui sont des start-up en tant que tel. Ensuite, on a identifié à peu près 2000 entreprises qui ont quelque chose à voir, qu'on repère notamment par l'impôt crédit recherche ou par l'accès à des financements de type OSEO, ENVAR, etc., EX-ENVAR, etc. Et puis, on a une cible de 20 000 entreprises dont on sait bien qu'elles sont là, elles ne sont pas encore... Ce n'était pas des start-up, parce que ce n'était pas dans des domaines de start-up. Ce n'était pas des entreprises qui ont introduit l'innovation ou la recherche d'une manière un peu structurelle dans leur démarche, puisqu'elles ne font pas partie des 2000. Par contre, elles sont dans les 20 000 qu'on a ciblées et pour lesquelles ARDI essaye de les rapprocher dans le cadre des pôles de compétitivité. Je ne sais pas si, M. Graff, vous avez perception au niveau du pôle de cette dimension d'ARDI, mais je crois qu'il y a des liaisons, effectivement. Cet écosystème régional de l'innovation me paraît très important, notamment au regard des PME.
Simplement, ce qui est intéressant dans cette région, c'est qu'au-delà des pôles, il y a différents organismes et que ces organismes, finalement, on essaye de les utiliser pour leur savoir-faire. L'ARD, effectivement, fait un certain nombre de choses. Il y a des clusters régionaux et je dirais qu'on a tout intérêt à ce que ces organismes se causent, et c'est ce qu'on fait, se complètent, parce que sinon, c'est l'argent public, c'est-à-dire notre argent de contribuable qui n'irait pas où il faut, et ça permet d'optimiser les choses. Et ça permet aussi aux pôles de se concentrer sur l'innovation, de ne pas vouloir faire aux pôles ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire amener des entreprises à l'international, mais il y a peut-être aussi des organismes déjà, comme les chambres de commerce, comme les RAI, etc., dans la région, qui sont là. Donc, ce qui est intéressant, c'est bien de faire fonctionner ces différentes structures que personnellement je trouve nombreuses, mais qui au moins dans cette région communiquent, donc c'est déjà vachement bien, et donc pour les utiliser et amener les entreprises à progresser, soit dans le domaine du savoir-faire, soit dans le domaine de l'international, soit dans le domaine de l'innovation par les pôles, et donc que tous ces savoir-faire se complètent, parce que sinon ils auraient tendance à être redondants. Là, ils ne le sont plutôt pas, Et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est intéressant. Mais toutes les régions n'ont pas ça. Et c'est finalement une région qui est riche au bon sens du terme d'action pour les entreprises, quelle que soit leur taille.
Si je peux juste rajouter donc un petit mot sur les statistiques. Donc les résultats que je vous ai présentés en fait soulignent effectivement que c'est les plus grosses entreprises qui avaient une plus grosse part de grosses entreprises qui ont reçu des financements. Nous, hélas, on n'a pas eu accès en fait à la liste des financements avec les montants des financements reçus par les firmes. On a juste eu la liste des firmes financées. Et ce qu'il faut juste souligner, c'est que effectivement, c'est des questions importantes, mais que les relations sont tendues en fait avec les personnes en charge, celles qui détiennent les statistiques à la source. Et nous, pour le coup, on a subi l'effet indirect du premier rapport de Thierry Meyer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier rapport sur la SPL est sorti, on n'a plus droit à rien de la part des gens qui auraient pu nous fournir des statistiques. Donc, pour le coup, les statistiques aussi, il faut qu'elles nous soient fournies pour qu'on puisse répondre à ce genre de questions. Voilà.
Ils ont peut-être détruites depuis.
Excuse, mais moi personnellement, en tant que citoyen et contribuable, ça me choque énormément parce qu'il devrait y avoir une transparence là-dedans. La personne en charge de Ténardis, est-ce que concrètement vous pouvez répondre à la question et nous dire pour Ténardis, 120 millions d'euros, où ils ont été?
On sait le dire, on ne l'a pas nécessairement publié. Ce qui est publié aujourd'hui, ce sont les statistiques en particulier de l'Agence nationale de la recherche qui publie l'ensemble des montants qui ont été financés sur l'ensemble des pôles. Donc vous retrouvez ça, c'est tout à fait public, qui donne les critères. Ensuite, au sein des pôles, ce qu'on sait sur Ténardis, c'est que deux tiers des financements sont allés à deux secteurs, le solaire et le bâtiment, et hydrogène et piles à combustible, qui ont pris deux tiers des financements parce que c'est là où il y a eu le plus de projets, le plus de dynamique, et qu'ensuite le reste se partage entre tout ce qui est réseau, tout ce qui est biomasse et tout ce qui est hydraulique. Donc on l'a par secteur d'activité, on le suit, et ensuite ça ne va pas à une entreprise, ça va à chaque fois à des projets. Donc c'est très compliqué parce qu'après il faut resegmenter, donc c'est pas transparent, c'est que même quand je pose la question au sein de TNR10, il faut que les gens fassent un certain nombre de retraitements parce que le projet, on touche 100 pour le projet, mais le projet mélange à la fois l'INSA de Lyon, le CEA, la petite entreprise, etc. Et qu'ensuite, en fonction de l'investissement de chacun, parce que c'est lié aux investissements de chacun, c'est réparti. Alors effectivement, globalement, en valeur absolue, il est probable, il est même certain, que les grandes entreprises touchent plus, aussi parce qu'elles investissent plus. C'est-à-dire que le montant en valeur absolue des entreprises, souvent, et des projets, est plus important. Et donc mais c'est lié au poids relatif de chacun, mais pas en pourcentage. Donc les entreprises, les PME, en pourcentage, touchent de la même façon. Mais c'est aussi l'effet d'entraînement des grandes entreprises sur les petites, quoi. Donc ça n'a rien de négatif.
Oui. En tant que membre du Conseil de développement du Grand Lyon, je voudrais qu'on sorte un peu de France pour un moment, parce que, en fait, le schéma français se rapproche plus du schéma allemand sur le plan des clusters, c'est-à-dire que c'est d'initiative publique, alors que l'Angleterre et les États-Unis sont beaucoup plus d'initiatives très classiquement privées. Et la différence n'est pas seulement là, c'est qu'au sein des clusters anglo-saxons, la finance joue un rôle intégré, moteur, dès le départ, qui n'a rien à voir avec des projets et des subventions ou des affectations de crédit. Enfin, il y a des crédits publics, bien sûr, mais il n'y a surtout pas que ça. Ce qui entraîne un effet d'essaimage et d'entraînement économique au niveau territorial qui est beaucoup plus capillarisé. Alors qu'en France, on est dans des structures qui sont des structures donc très, je dirais, analysées, qui sont très remercier sur le plan de la qualité par rapport à l'argent qu'on veut y mettre, mais qui n'ont pas cette souplesse de l'investissement SME sur le plan financier anglo-saxon habituel. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça, parce qu'on a parlé rapidement, en dehors de l'aspect de la coopération entre les firmes, de l'attractivité territoriale que représentent les clusters, et là je reviens à la région Rhône-Alpes. C'est une notion extrêmement importante pour la région Rhône-Alpes, d'avoir une image de ces clusters. Or, cette image est très faible pour l'instant, et ça rejoint le problème de la distance, parce que la distance, effectivement, peut éviter de territorialiser une image. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments très complexes qui sont encore à analyser et qui sont intéressants au niveau d'une région dont M. Jacquot parle avec efficacité, qui se préoccupe beaucoup de cela. On devrait essayer d'analyser un peu plus certains besoins de communication et d'essaimage.
Je dois dire qu'en matière d'essaimage, on trouve énormément dans la région d'essaimage de sociétés, de PME qui sont issues en particulier de ce qui a été fait au CEA ou au CNRS. Beaucoup d'entreprises sont sorties. Une entreprise comme Soitech est une pure entreprise d'essaimage. Alors on cite toujours Soitech, mais il y en a plein d'autres beaucoup plus petites. Et qu'avec des choses comme les incubateurs comme Grain ou d'autres sur Grenoble, mais il y a la même chose sur Lyon, je trouve qu'il y a beaucoup d'essaimages qui sont résultent dans la région, mais qui sont effectivement moins visibles, moins mis en valeur, peut-être médiatiquement, que dans la Silicon Valley, mais qui existent, et je trouve, beaucoup dans cette région. En termes de financement, vous avez raison, il ne faut surtout pas tout attendre de l'État, et c'est pour ça qu'un pôle comme Ténerdis, mais les autres le font aussi, on a mis en place des sessions, des partenariats avec les business angels de Savoie et de Grenoble, qu'on est en contact avec des gens comme Lyon Place Financière ou d'autres, ou avec des investisseurs dans les nouvelles technologies qui sont sur Lyon, qui cherchent des PME et pour mettre en contact des PME en particulier sur des projets pour leur montrer qu'il y a un certain nombre de projets et pour faciliter ces financements, parce que je crois que c'est un mix des deux. Et effectivement en France, par rapport à la Silicon Valley ou à Boston ou ailleurs, ça a été catalysé par des interventions de l'État. Je dirais que sur Rhône-Alpes, ils n'ont peut-être pas attendu cette intervention de l'État, ça a accéléré. Dans d'autres régions de France, ça a plutôt eu un effet bénéfique parce que ça a donné une certaine dynamique, ça a permis à des sociétés des chercheurs de se positionner ensemble, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas avant. Donc, ensuite, ça n'a rien d'étatique. Un fonctionnement comme Ténerdis, c'est une association, ça n'a rien d'un organisme public, ça n'a rien d'étatique, et c'est piloté par des industriels avec des chercheurs, des politiques, etc., qui fonctionnent finalement bien ensemble. Ça n'a rien d'une institution d'État, un pôle, absolument pas. Ça fonctionne avec une dynamique managériale et de fonctionnement industriel, je dirais.
Très rapidement. Par rapport à la comparaison que vous faites vis-à-vis des États-Unis, moi, je pense qu'une différence essentielle, c'est l'importance des brokers, c'est des intermédiaires de la connaissance aux États-Unis. Deuxièmement, c'est l'importance des fonds d'investissement et l'idée qu'on se fait du brevet. En France, la notion de brevet reste encore quelque chose d'assez traditionnel. Le brevet aux États-Unis, c'est un collatéral, souvent. Il y a des fonds d'investissement qui rachètent non pas un brevet, mais des brevets et qui construisent des grappes de brevets, qui s'en servent même comme barrière à l'entrée sur certaines filières de développement de la recherche et autres. Donc je pense que c'est un petit peu qui licencie les brevets plutôt que les racheter de façon à laisser la propriété aux organismes publics et qui leur permet de bénéficier d'un fonds de roulement. Moi, je pense que c'est plutôt sur ces questions. Je vous rappelle la notion d'enchère de brevets, par exemple, qui a eu lieu récemment aux États-Unis, le lancement en Chicago en 2010 d'un marché des brevets dont le sous-jacent serait des brevets ou des portefeuilles de brevets. Je pense que c'est autour de ces questions. Les brokers et la valeur du brevet, des choses qu'on a un petit peu...
Il y a des sociétés françaises qui rachètent des brevets comme ça.
Oui, mais
aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais. Vous avez des fonds d'investissement qui rachètent l'équivalent des brevets qui sont déposés en France tous les ans, qui se construisent des portefeuilles de brevets. Il existe une cartographie maintenant, des logiciels qui permettent de cartographier les brevets et qui, par exemple, introduisent jusqu'à 60 millions de brevets dans leur logiciel.
D'accord. Une dernière question, parce que tout a une fin.
Oui, Louis Lemoine. On n'a pas beaucoup parlé du rôle des universités dans les pôles de compétitivité. On sait que une des faiblesses de la France, c'est le lien entre l'université et l'industrie, à part quelques régions pilotes comme Grenoble, qui a une antériorité dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la politique des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, avec l'autonomie des universités, est-ce que vous sentez un certain changement dans ce domaine et une capacité des nouvelles universités autonomes à faire davantage de travail avec les milieux industriels ?
Qui veut répondre, Monsieur Jacquot, Monsieur Graff?
Oui, fondamentalement, et on le voit en Rhône-Alpes, et vous avez en Rhône-Alpes Grenoble, l'Université des Nations, et Lyon, dont je n'ai pas le nom, mais qui sont deux grandes universités parmi les 10 qui ont été retenues par le gouvernement, qui fondamentalement, dans le plan campus, ont été retenues et fonctionnent parfaitement, et puis grandes écoles comme l'INSA ou d'autres aussi. Donc, quand on parle de chercheurs quand j'ai parlé dans l'exposé de chercheurs ou autres, j'avais en tête autant ceux du CEA, du CNRS, que de ces universités-là qui collaborent fondamentalement. Donc il n'y a pas de... Alors, c'est vrai en Rhône-Alpes, c'est un peu particulier. Il n'y a pas... historiquement, il y a toujours eu ça et ça continue. Donc c'est... je pense que demain, ça va s'accélérer ou se faire beaucoup plus dans les autres régions grâce à ces pôles et grâce à ces plans campus.
J'irais tout à fait dans ce sens-là. Je crois qu'il y a une articulation et dans l'avenir, il y a l'articulation encore plus forte à faire entre les pôles de compétitivité, les presses, effectivement, et les campus, et c'est en train de se faire. En même temps, je voudrais le dire, parce que par rapport à la dynamique à la fois de polarisation, mais en même temps d'inégalité que ça déclenche, la région tient à, je dirais, marcher sur les deux jambes, et en même temps, penser aussi aux régions et aux zones de son territoire qui ne seraient pas dans cette dynamique. Et elle a mis en place parallèlement un appel à projets pour les universités dites citoyennes et solidaires, pour permettre des projets, puisque là, on est vraiment sur des projets, y compris de territoires qui ne seraient pas immédiatement adossés et articulés dans les pôles de compétitivité. Parce qu'il faudrait faire quand même attention de ne pas avoir des pôles qui soient des îlots de prospérité dans des océans de décrépitude. Hein. Donc, il y a le problème de l'équilibre des territoires. Cette question, on parlait de l'Europe tout à l'heure, elle est pleinement posée au niveau de l'Europe. Hein, puisque la discussion sur la cohésion sociale et les politiques territoriales, le livre vert, au même titre que la discussion sur l'excellence, la polarité, la société de la connaissance et effectivement l'innovation. Et il faut qu'on arrive à marcher sur les deux jambes.
Bon, je pense qu'il va encore couler beaucoup d'encre autour des pôles de compétitivité et c'est tant mieux. Peut-être que ça sera un des leviers pour rebondir après la crise. Toujours est-il que je remercie les 5 intervenants et voilà.